Je suis en compagnie de Nancy Murzilli. Merci de me recevoir dans ton bureau de l'Université Paris 8. Nous parlons de ton livre « Changer la vie par nos fictions ordinaires », sous-titré « Du tarot aux rêves éveillés, comment nous mettons nos avenirs en jeu ». Il est sorti au début de l'année 2023 aux éditions Premier Parallèle. J'aimerais que nous parlions du premier chapitre qui s'appelle « Comment rencontrer le grand amour ». Tu y relates une expérience en forme d'événement personnel. Ta maman effectue pour toi un tirage de tarot avant que tu effectues un voyage en Italie. Ça s'est passé il y a de nombreuses années. Peux-tu nous raconter ?
Merci Dominique de cette invitation à parler de ce livre. Alors, cette expérience du tarot avec ma mère est une expérience assez forte. Qui jalonne notre histoire, parce que ma mère donc vit assez loin de moi, ou je vis assez loin d'elle. Et quand on se retrouve, c'est une sorte de rituel de tirage du tarot. Et à ce moment-là, se renoue une conversation, mais une conversation un petit peu particulière avec ce tiers signifiant qu'est le tarot. Qui se situe entre nous et qui permet un dialogue d'une sorte un peu différente. Cette histoire de tarot, en fait, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, parce que depuis de très longues années, je m'interroge sur la fiction et son agentivité. J'ai toujours travaillé sur des supports artistiques, en fait, essentiellement des ouvrages de littérature. Lors d'une de ces séances, donc pas celle dont tu as parlé au départ, mais une séance qui est arrivée plus tard, j'ai réalisé après coup qu'il se passait quelque chose qui était de l'ordre de la fiction, mais une fiction co-construite durant la séance de tarot. Il se passait quelque chose, et il se passait quelque chose dans une sorte de bulle temporelle, le moment de la séance, un peu comme finalement dans tous les jeux qu'on pratique, qui se situe un peu hors du temps, parce qu'on joue avec d'autres règles aussi. C'était le moment, pendant la séance de tarot, de poser une question au tarot, de la formuler, de faire le point ensemble et de projeter un récit. Alors, qui peut être projeté sur le passé, sur le présent ou sur l'avenir. Et je me suis dit, en fait, là, il se passe quelque chose qui est de l'ordre de fiction ordinaire, finalement, c'est-à-dire des fictions qu'on pratique au quotidien. Mais dans le tarot en particulier, ça devenait spectaculaire. Parce que, justement, il y a une dimension un peu dramatisée, il y a l'idée de la divination aussi, voilà, on prédit l'avenir dans le tarot. Je suis repartie de cette séance de tarot que je pourrais considérer comme initiale, qui a été la première, en fait, hein, et qui m'a annoncé une rencontre amoureuse. Et j'en ai fait quelque chose que j'ai trouvé aussi amusant à raconter, en fait, parce que c'est une histoire... C'est une histoire de vie assez banale, en fait, quelque chose qui arrive un peu à tous, et qui peut être présenté à travers ce récit comme quelque chose d'un peu romanesque, hein, aussi. Et je me suis interrogée sur le rapport de cette fiction construite au moment... Du récit qui se crée lorsqu'on lit les cartes et qu'on les lit les unes aux autres à travers le hasard du tirage qui va décider du sort de la suite, en fait. Et voilà, je pense que...
Et alors, c'est ta manière de nous parler de cette séance et de nous parler de cette efficace. C'est-à-dire que tu vas avoir, puisque tu es théoricienne, tu vas réussir à avoir le bon vocabulaire, la bonne syntaxe, pour nous restituer l'efficace de ce tirage de tarot. Voici ce que tu écris. Pour comprendre cela, il faut saisir que la lecture du tarot détermine moins un résultat qu'elle ne rend possible une action. La fiction projette des situations qui, lorsqu'elles s'articulent à nos vies, prennent une valeur performative car elles donnent existence sur le champ à un possible. On sent bien qu'avec le vocabulaire que tu vas employer, le terme d'action, le terme de performatif, le terme de possible, le terme de fiction, ça va te permettre de théoriser avec ce type de pratique qui, jusque-là, n'est pas forcément pris au sérieux d'une théoricienne de la fiction que tu es.
Ce qui m'a amené donc à relier la pratique du tarot divinatoire à la fiction, comme tu le dis, c'est ma pratique de théoricienne de la fiction, en effet. Moi, je m'interrogeais, comme je l'ai dit, à l'agentivité des fictions, et essentiellement des fictions littéraires. Et la grande question que posait la théorie de la fiction classique, c'est le rapport de la fiction au réel. Et des théoriciens comme Frege, Searle, donc des théoriciens des théories de la référence, en fait, qui travaillent avant tout sur la question de la vérité, en philosophie analytique, se sont interrogés sur la fiction du point de vue de la vérité. Donc, en se disant, la fiction, en fait, n'a pas de valeur de vérité. Donc, elle n'a pas de rapport avec le réel. Et pourtant, dans la pratique, donc si on observe la fiction d'un point de vue pragmatique, on se rend bien compte qu'elle a des effets, qu'elle a des effets sur nos vies. Le tarot, c'est le dispositif, en fait, qui m'a permis de saisir le jeu qu'on fait avec la fiction, c'est-à-dire la façon dont elle s'articule à nos vies. Quand on lit le tarot, on construit un récit qui est fictionnel, puisque quand on projette quelque chose sur l'avenir, de toute façon, ça n'a pas encore été. Donc c'est de la construction et c'est de la co-construction. Ça devient effectif à condition qu'on relie les éléments du récit à des éléments de la vie. Donc qu'on entremêle la fiction et le réel que la fiction est en train de construire et qu'on continue d'engager en continuant à le vivre. Donc il y a une espèce de constant va-et-vient. En fait, ce que je dis à un moment donné, c'est que on ne peut pas oublier une séance de tarot. La question qu'on a posée et à laquelle le tarot a répondu, on y pense, parce que ça marque. Il y a cette dimension dramatique de on te prédit l'avenir. Donc, c'est quelque chose qu'on intègre à la suite de la vie. Donc, on sort de la séance de tarot, on retourne à la vie avec ce récit. Et c'est en cela que ce récit fictionnel est performatif. C'est-à-dire qu'il prend effet au moment même où il est formulé. Donc ça, c'est l'expérience que j'ai faite du tarot. Voilà.
Alors j'aimerais qu'on continue pour bien faire comprendre l'opération que tu effectues, parce qu'elle décale l'usage du terme de fiction, ou en tout cas la manière dont on attribuait à la fiction certaines qualités. Je te cite, je désigne par fiction les produits de notre imagination. Rompant avec une longue tradition en théorie de la fiction, et tu as commencé déjà à nous l'expliquer, je m'abstiens de définir la fiction à partir des rapports qu'elle entretiendrait avec les faits. Cette opération n'est pas anodine. Dit comme ça, on pourrait dire bon, d'accord. Oui, mais bon, d'accord, mais ça change tout, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on casse cet usage traditionnel de la fiction en théorie, eh bien, soudain, la fiction se met à émettre d'autres effets. Et ça, on sent bien ce qui s'est passé avec le tirage de tarot.
Alors, oui, j'évitais d'opposer la fiction aux faits et éviter ce genre de binarisme. En fait, ça, c'est un petit peu la leçon de la philosophie pragmatique dont je me sens proche. Et donc, dans cette idée que la fiction s'entremêle au réel, dans ce va-et-vient dont je parlais tout à l'heure, fait qu'on ne peut pas séparer la fiction des faits. D'abord parce qu'à l'intérieur même de la fiction, il y a cet entremêlement. Et là, pour reprendre à nouveau l'exemple du tarot, ça se voit très concrètement dans une séance. C'est pour ça que pour moi, ça devient un modèle, en fait, pour une théorie de la fiction. C'est que je vais sortir une carte et on va me donner l'interprétation de cette carte. Et moi, je vais dire, ah mais oui, en effet, ça c'est vrai, surtout si on instaure un dialogue avec le consultant, et c'est là que ça devient intéressant. En effet, ça c'est peut-être parce que il y a quelque temps, j'ai reçu de l'argent, ou j'ai ce projet de construire une maison, la fiction se mêle à des éléments de la vie et se construit avec. Donc la fiction, nos fictions, les fictions artistiques, se construisent de cette manière, donc avec des éléments qu'on peut dire référentiels. Mais si on part du principe que la fiction est ce qui permet de construire le réel et de le projeter, on ne peut pas l'opposer aux faits, puisque elle-même fait partie de la construction des faits.
C'est pour ça que, pour continuer sur cette pratique du tarot, ça te permet d'écrire « Rien ne me permet de dire que le tirage s'est fait, s'est vérifié ». Parce que c'est autre chose qui se passe. Tu en arrives à écrire cela. « Si la divination est une pratique fictionnelle, la fiction est peut-être d'abord et avant tout une pratique divinatoire. » Ça te permet ce retournement comme ça. Et donc ça te permet d'envisager la fiction en tant que prédiction. Et tu en arrives avec ta pratique du tarot à dire, cet énoncé, « Rien ne permet de dire que le tirage s'est vérifié. » Si bien que ça te permet d'avoir cette phrase « Si la divination est une pratique fictionnelle, la fiction est peut-être d'abord et avant tout une pratique divinatoire. » Si bien que tu opères un basculement en direction d'une fiction prédictive.
Oui, alors c'est là qu'en fait, les choses se renversent en effet, et que j'ai cette idée de considérer les fictions comme des formes de divination, à condition qu'elles soient articulées. À, à des événements, à des éléments de la vie. Donc c'est la dimension prédictive de la fiction n'existe pas a priori dans le texte fictionnel. Cette dimension prédictive ou divinatoire n'existe qu'à partir du moment où je performe la fiction en la lisant et parfois, une fois qu'elle a fait son chemin, ou qu'on la retrouve à un moment donné de l'existence. Tout d'un coup, il y a une connexion qui se fait entre une histoire ou un possible qui m'a habité au moment où j'ai lu cette fiction et qui a fait son chemin et qui est arrivé à un point de jonction avec donc il faut qu'il y ait un événement extérieur qui crée ce point de jonction et qui en quelque sorte réalise la prédiction.
Utilisons un autre exemple que le tarot, celui de l'ami imaginaire. Cela arrive souvent aux enfants et il est courant que l'ami imaginaire soit abandonné lorsque l'enfant grandit et il est même souhaitable puisque généralement les psychologues disent bon maintenant l'enfant a passé l'âge d'avoir un ami imaginaire, il faut s'en débarrasser, c'est souvent le passage à l'adolescence et à l'état adulte. Et donc tu prends cet exemple de cet ami imaginaire, tu écris qu'il est exemplaire des relations et des interactions que nous entretenons en imagination. Seulement, tu ne vas pas t'intéresser tant au monde de l'enfance de voir que nous pouvons encore continuer cette expérience et tu vas effectuer une comparaison avec d'autres populations humaines, par exemple les sociétés hachoires étudiées par Philippe Descola. Tu écris qu'elles communiquent avec les entités de la nature via les rêves et par lesquels des activités comme la chasse ou le jardinage sont en partie oniriques, et que ces populations ont une notion du vrai et du faux, du mensonge, même s'ils ne partagent pas une théorie de la connaissance identique à la nôtre et ne tracent pas le même partage entre fiction et réalité. Et donc ça va te permettre de comparer, on va dire, des régimes d'usage de la fiction, de l'imagination, de populations humaines différentes de celles de nous autres, les modernes.
Oui, l'ami imaginaire, c'est un... ça a été aussi un élément important dans ma réflexion. Et je l'ai associé à l'espace de jeu potentiel qu'on trouve dans le livre de Winnicott, « Jeu et réalité ». Ce que j'ai trouvé intéressant, bon, au-delà de la vulgate, de ce qu'on sait sur Winnicott et de l'objet transitionnel du doudou, il dit quelque chose d'intéressant, à mon avis, c'est que dans cet espace de jeu se construit la culture. Et c'est un espace de jeu intermédiaire où on peut développer des formes imaginaires. Donc voilà, ça peut être un dialogue avec un ami imaginaire. Alors je raconte que l'exemple que je prends, c'est celui de mon fils qui avait une amie qui était la baleine avec qui il dialoguait. Et c'est ce qui permet, dans ce cas, de construire, déjà de préconstruire une relation amicale. Et dans ces espaces de jeu, le caractère intermédiaire entre l'imagination et le réel signifie qu'il n'y a pas de distinction. L'enfant ne fait pas de distinction et ça ne lui pose pas de problème. Et ça ne pose pas de problème ensuite dans le réel. Et alors, on tend à dire, ah, les enfants, il faut à un moment donné, s'ils restent trop dans cet imaginaire, s'ils continuent à avoir un ami imaginaire quand ils sont plus grands, c'est embêtant. En réalité, je crois que tout simplement, ça se déplace. Si on observe bien, on continue à dialoguer avec des entités imaginaires en permanence. Et alors là, je vais prendre l'exemple des hachoirs, mais parce que c'est assez parlant du fait que ce sont des sociétés qui ont des fonctionnements qui sont très différents des nôtres. Mais finalement, quand on observe nos comportements et relativement à nos propres fictions, on va continuer un dialogue avec un personnage de fiction, on va continuer à la conversation que j'ai là avec toi. Et bien quand je marcherai ce soir de la fac au métro et jusque chez moi, je continuerai la conversation avec toi. Et j'en ferai peut-être un dialogue imaginaire pour le poursuivre. Et à mon avis, c'est à peu près du même ordre.
Abordons une autre partie qui s'intitule « Comment se défendre contre ses ennemis ?» Et là, tu vas utiliser les livres et les travaux de recherche de Jeanne Favret-Saada. Ça va nous permettre non plus de voir le lointain des hachoirs, mais le proche de nos pratiques au sein même de la modernité, donc des pratiques de sorcellerie. Et ça, c'est les grands livres et les grands travaux théoriques de Jeanne Favret-Saada. Qu'est-ce que ça te permet de réfléchir avec ces livres? Peut-être que tu vas l'entendre aussi comme une sorte de fiction relationnelle et d'essayer de voir ce que ça peut faire comme effet en incluant dans ces pratiques de sorcellerie le terme de fiction. C'est comme si c'était un forçage théorique de dire c'est des pratiques de fiction. Au premier abord, on pourrait te le reprocher et dire mais non, ça n'a rien à voir avec de la fiction, bien entendu. Et donc tu vas faire un forçage théorique et là, ça peut produire justement des effets nouveaux.
Oui, en effet, Jeanne Favret-Saada ne parle pas de fiction quand elle décrit ses pratiques. En revanche, quand elle considère la thérapie par le tarot, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire le désorcellement, par le tarot et notamment la pratique de Madame Flora qu'on trouve dans son ouvrage « Désorceler », elle dit qu'on se situe dans un espace mi-fictionnel, mi-réel. Et là, je crois qu'on se retrouve à peu près dans cet espace de jeu dont parle Winnicott. Et d'ailleurs, au moment où elle en parle dans « Désorceler », elle le rapproche de la pratique psychanalytique et de la cure psychanalytique, où elle dit que entre le patient et son psychanalyste, il y a cet espace de jeu qui se crée. Donc moi, ce qui m'intéresse là dans les pratiques de sorcellerie, c'est cet espace de jeu où se construisent des pratiques fictionnelles qu'on peut considérer comme une introduction de quelque chose de l'ordre de l'invisible, en quelque sorte. Je ne sais pas, moi, je vais lancer du sel par-dessus mon épaule pour chasser les mauvais esprits. Ces entités-là, ces mauvais esprits, de quelle nature sont-ils? Je ne m'en soucie pas. Et je ne me demande pas s'ils sont vrais, s'ils sont faux, s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Mais, en tout cas, ce geste, cette pratique, on peut, et ça c'est ma proposition, les prendre dans l'idée d'une pratique fictionnelle.
Et c'est ce qui va te permettre de les considérer à nouveau frais. Parce que les anthropologues pourront te reprocher cela. Si on prend par exemple Charles Stepanov qui étudie les chamans, si on considère que la pratique chamanique c'est un usage fictionnel et non pas imaginaire, Charles Stepanov, quand il les étudie, il parle de régime d'imagination, mais il ne parle surtout pas de fiction. Si je vais le voir en lui disant « et si ça pouvait être de la fiction ?», il m'en fait aussitôt reproche amical en me disant « non, vous vous trompez ». Parce que si vous dites que c'est fiction, c'est comme si c'était une assertion ontologique. et les chamans ne considèrent absolument pas que c'est de la fiction. Néanmoins, je considère, et c'est aussi tout l'enjeu de ton travail, donc nous considérons tous les deux ensemble, qu'il faut tenter l'opération théorique. Donc c'est, on pourrait appeler ça cette opération de forçage théorique, au moins pour vérifier, et pour surtout vérifier les effets, puisque nous cherchons les effets que peut produire la fiction, et c'est aussi ton titre, nous mettons nos avenirs en jeu. Comment tout ça, ça peut faire prédiction ou prédifiction? Et pour cela, il faut un forçage théorique. Si nous ne produisons pas de forçage théorique, dans ces cas-là, on théorise, on va dire, de peu, puisqu'on va être très rapidement d'accord. Or, tu utilises là les travaux de Jeanne Favre Saada, et ça va te permettre de produire cela. J'ai trouvé vraiment une phrase très très éclairante. Je te cite à nouveau. « Dans ce livre, je mets sur le même plan plusieurs pratiques que l'on fait généralement relever des croyances plutôt que des fictions. » On y est là, voilà. Hein? « Généralement relever des croyances plutôt que des fictions. » En me situant du côté de leurs effets, j'extrais ces pratiques du champ des croyances pour les observer comme des fictions ancrées dans le réel. Voilà l'opération théorique que tu opères.
Oui, et tu fais bien de relever la dimension de l'effet. Parce que si je reprends l'exemple que j'ai donné du sel que tu jettes par-dessus l'épaule, alors pourquoi c'est intéressant de le considérer comme une pratique fictionnelle ? Parce que on va la considérer justement dans ses effets, sans se soucier de savoir si c'est quelque chose qui relève de la croyance ou pas. Ça nous permet de faire cette économie en fait d'une ontologie. Et bien entendu, et je te remercie de le souligner, de le relever, pour que ça fonctionne et que ce reproche-là, de la part des anthropologues, ce reproche qui pourrait m'être fait, j'en ai tout à fait conscience, si on considère qu'il y a une distinction ontologique entre le réel et la fiction, qu'il y a une manière de les définir en tant que telles au préalable, alors, en effet, dire qu'il s'agit de pratiques fictionnelles, c'est problématique. Mais il faut déjà, auparavant, avoir fait ce pas, au-delà de l'ontologie, vers la pratique, au-delà du binarisme réel-fiction, pour que cette proposition prenne un autre sens, en réalité. Donc, je me situe du côté des effets, et donc ça c'est ma démarche pragmatiste aussi pour considérer ce que j'appelle de la fiction, et je me pose pas de problème à l'appeler de la fiction parce que je ne fais plus cette distinction là. Alors Charles Stepanov, cette distinction, il continue de la considérer comme quelque chose en quelque sorte d'historique, comme de l'histoire de la philosophie. Dans l'histoire de la philosophie, la fiction, et en particulier la philosophie occidentale, la fiction, elle est définie de cette manière-là. Donc, en effet, il ne peut pas la reprendre à son compte. Mais moi, ce que je souhaite, et je crois que c'est ce que tu souhaites aussi dans tes travaux, c'est qu'on revienne sur une définition de la fiction qui nous soit... c'est toute la proposition, en fait, de cet ouvrage... sur les fictions ordinaires. Repartons de nos fictions ordinaires parce que c'est celles qui prennent effet dans notre quotidien, qui sont ancrées dans nos pratiques et qui nous montrent à quel point nos pratiques fictionnelles sont agentives, puisque on vit, on survit grâce à elles, je dirais même. La fiction, c'est ce qui nous permet constamment de nous projeter et de sortir des crises mais pour ça, bien entendu, il faut se débarrasser, comme dirait Wittgenstein, de nos crampes mentales.
Et puis ça veut dire aussi changer de corpus. Tu es considérée comme une théoricienne de la fiction, c'est un livre sur la théorie de la fiction, mais il s'appelle Changer la vie par nos fictions ordinaires. Donc ton corpus, ça va pas être les fictions sur support. Ça va pas être la littérature, ça va pas être le cinéma, ça ne va pas être le corpus, on va dire, culturel commun que nous entendons, nous, en Occident, par fiction. Ton corpus, c'est celui de la vie ordinaire et donc de ses effets. Et cela change tout, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait la théorie de la fiction, traditionnellement, on s'intéresse à des fictions sur support, c'est le régime de l'imagination dans le monde occidental moderne, et que tu dis, voilà, ça maintenant, on va étudier nos vies quotidiennes, donc, par exemple, un tirage de cartes de tarot, c'était notre premier exemple, ou alors nos personnages imaginaires, notre deuxième exemple, ou alors le régime de la sorcellerie dans le bocage étudié par Jeanne Favre Saada. Cette kyrielle d'exemples nous montre que c'est inscrit dans nos pratiques, qui sont hors pratiques culturelles, on va dire de haute culture, c'est-à-dire la littérature, le cinéma, bref, nos supports en fait d'inscription. Alors maintenant, j'aimerais que nous parlions de ton titre, parce que tout est contenu dans ton titre. Il y a ce terme de fiction ordinaire, et ça, c'est la modification qui t'est propre, la fiction ordinaire. C'est un de tes gros apports théoriques qui te permet justement de théoriser à nouveau frais.
Oui, c'est là que s'opère le renversement pour moi. Observer nos fictions non plus du point de vue de nos fictions artistiques, mais du point de vue des petites fictions qu'on rencontre au quotidien. Donc tout le travail serait de construire une théorie de la fiction, des fictions ordinaires. Bon, c'est ce que j'essaie d'amorcer dans ce livre, mais c'est un travail d'observation aussi, et là dans ce livre il n'est pas du tout exhaustif, hein, il n'y a que quelques exemples qui sont pris, d'un autre côté, pour moi, et là, je m'inspire notamment du travail de John Dewey et notamment de son œuvre de référence, L'art comme expérience, où il développe cette idée d'une continuité entre l'art et la vie. Et je n'opère, et donc de toute façon dans le pragmatisme tout ce qui se situe à l'encontre des oppositions et des binarismes, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de différence de nature entre les choses, mais des différences de degrés. C'est pas que je m'intéresse plus aux fictions sur support. Je pense qu'elles sont un excellent moyen d'entraînement à la fiction. Pourquoi ? Parce que, et comme le dit Dewey, ce sont des expériences complètes et abouties auxquelles on peut consacrer une attention limitée. Alors que souvent, notre expérience ordinaire, l'expérience est morcelée ou alors elle est étendue. Dans le temps, je ne sais pas, moi par exemple, l'expérience, on peut dire que le mariage est une expérience, mais c'est une expérience sur du long terme. Les fictions artistiques entraînent notre compétence fictionnelle, mais nos compétences fictionnelles nourrissent nos fictions artistiques. Et c'est à partir de là que j'en viens à développer cette idée d'un peuple de fiction, c'est-à-dire qu'au fond, nos fictions artistiques, ben souvent elles sont signées, donc il y a cette notion d'autorialité, mais au fond, elles sont nourries d'un millier de fictions qui circulent entre nous, quoi.
Tu parlais de John Dewey et j'aimerais que nous concluions avec lui pour aborder aussi un autre point dans ton livre. Tu écris « Comment percevoir ce qui nous affecte en commun ?» Pour John Dewey, cela passe par l'enquête. Or, il y a des pratiques fictionnelles qui favorisent ce genre d'enquête. Et on peut lire ton livre comme un livre d'enquête en fait. C'est une enquête que tu as fait sur des terrains non plus de la fiction artistique, ton expression, mais sur le terrain de nos vies quotidiennes. Et c'est le résultat d'une enquête en théorie de la fiction. Et ça, j'ai l'impression que c'est assez nouveau de l'avoir exploré dans nos vies quotidiennes plutôt que dans nos fictions artistiques.
J'ai eu envie de partir dans ce livre toujours d'une anecdote ou d'une observation que j'avais pu faire, donc quelque chose de souvent personnel. Et à partir de là, donc en effet, partir de l'observation, poser un problème et essayer de mobiliser des concepts, mais toujours en restant très relié à une expérience, à ces expériences ordinaires de la fiction. C'est ce qui fait que, et je ne sais pas si c'est vers là que tu voulais me diriger, mais c'est ce qui fait que j'ai écrit ce livre d'une manière, je dirais, entre guillemets, non académique. C'est une autre manière de l'écrire. Pour moi, c'est nouveau aussi, assez nouveau. J'ai pris un plaisir immense à écrire ce livre et je me suis sentie très à l'aise dans cette approche aussi. Donc cette manière de mener l'enquête qui est restée finalement assez, assez personnelle aussi. Donc j'en ferai pas une méthode en soi. Mais par contre, je pense que, et c'est ça que je trouve intéressant et que j'ai envie peut-être d'explorer à l'avenir, tenter certains dispositifs, imaginer un dispositif d'écriture qui convienne à un sujet en particulier. Donc j'ai beaucoup réfléchi aussi à la façon dont j'allais construire mon ouvrage. Il y a toute une, donc à la fin de chaque chapitre, il y a une proposition d'exercice. Ce sont des exercices qui prolongent, qui ont l'idée de prolonger la réflexion, alors soit sous forme d'exercices pratiques, mais qui peuvent être aussi lus et simplement faits comme des expériences de pensée et qui sont ouverts. Et c'est aussi une invitation et une prise de risque auprès du lecteur. Parce que ce que je dis au lecteur, ce que j'essaie de dire, c'est essayez par vous-même et voyez si ça fonctionne. Voyez si ce que je vous propose, ça vous convient. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pour vous? Peut-être que ça ne marche pas. Et ce qui est d'ailleurs ce que j'expérimente aussi à travers l'écriture de ce livre, c'est les retours que j'en ai de gens qui m'écrivent, alors grâce aux réseaux sociaux, qui m'écrivent et qui me font des commentaires, qui me disent s'ils ont fait les exercices ou comment ils les ont fait. Et ça aussi, pour moi, c'est important. C'est cette forme de réception du livre que j'espérais et qui me semble avoir des effets et fonctionner. Que j'aimerais continuer à expérimenter dans mon travail de recherche et en faire une réelle dimension de mon travail de recherche.
Merci beaucoup, Nancy.